VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Émotion et colère dans le pays après 3 fusillades en une semaine qui ont fait 22 morts à El Paso au Texas, 9 morts à Dayton dans l'État d'Ohio. Après les 3 morts du 28 juillet à Gilroy, en Californie. Chaque tuerie a laissé de nombreux blessés et vient relancer le débat sur le contrôle des armes à feu dans le pays. Le point avec Lionel Gaïma.
El Paso endeuillé essaie de trouver des réponses sur les motivations d'un tel massacre. Il a été suivi 13 heures après par une autre tragédie à Dayton dans l'Ohio.
Les gens criaient dans la panique et se piétinaient.
À Dayton, la police a répondu moins d'une minute après et a abattu le tireur qui a aussi tué sa propre sœur. Le pays se remettait à peine d'une autre fusillade. Le 28 juillet à Gilroy en Californie, 3 personnes ont été tuées dans une attaque similaire. Pour El Paso au Texas, le tireur semble avoir ciblé les Hispaniques. Greg Allen, chef de la police d'El Paso, à la frontière avec le Mexique.
Il semble y avoir un lien avec un crime de haine. Le FBI et d'autres agences fédérales vont se pencher dessus.
Le président Donald Trump a qualifié de crime contre l'humanité, appelant la nation à condamner d'une seule voix le racisme, le sectarisme et le suprématisme blanc. Le président Donald Trump, ce lundi, depuis la Maison-Blanche.
Nous devons reconnaître qu'Internet a fourni une avenue dangereuse pour radicaliser des esprits déjà perturbés et accomplir des actes déments.
Selon M. Trump, il est trop facile aujourd'hui pour les jeunes en difficulté de s'entourer d'une autre culture célébrant la violence, notamment à travers des jeux vidéo atroces et sinistres.
Nous devons faire la lumière sur les ténèbres de l'Internet et mettre un terme aux meurtres de masse avant qu'ils ne commencent.
Le président américain a ordonné dimanche que les drapeaux soient mis en berne pour les 5 prochains jours. La démocrate Nancy Pelosi et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden affirment qu'une action doit être menée pour stopper la violence. La maladie mentale, les fusils d'assaut et l'extrémisme ont pu jouer un rôle dans ces fusillades de masse au point de devenir un sujet dans la campagne présidentielle. Beto O'Rourke, candidat démocrate originaire du Texas.
Oui, ce sont les lois sur les armes à feu. Oui, c'est la vérification des antécédents. Oui, nous devrions arrêter de vendre des armes de guerre à nos communautés. Mais je pense que nous devons également faire face à cette haine que je n'ai jamais vue de toute ma vie.
Pendant que les habitants d'El Paso font la queue pour donner du sang, beaucoup se posent des questions sans réponse, alors que le débat sur l'utilisation des armes à feu est bien relancé.
Merci Lionel Gaïma. Afrique maintenant, en Guinée, des milliers de personnes ont assisté lundi à l'inhumation dans son village natal de l'enseignant-chercheur Mamadou Bari, victime le 19 juillet en France d'une agression qualifiée de raciste par ses proches. Les détails avec Ekia Badou.
À Bolaroya, son village natal, la cérémonie d'inhumation hier s'est déroulée en présence de membres de sa famille et d'habitants des localités environnantes. La dépouille a été rapatriée de France samedi soir et une cérémonie a été organisée le dimanche à l'université publique Sanfonia de Conakry, où M. Bari avait fait ses études avant de partir en France. Mamadou Bari, 31 ans et père d'un enfant de 2 ans, est mort des suites de ses blessures après avoir été roué de coups le 19 juillet dernier dans la banlieue de Rouen. Il venait de soutenir sa thèse de droit le 28 juin. L'auteur présumé de l'agression, un Français d'origine turque et présentant des antécédents psychiatriques, a été interpellé et hospitalisé. Nous sommes convaincus que justice sera rendue car les crimes racistes ne peuvent être tolérés, avait déclaré samedi soir le chef de la diplomatie guinéenne, Mamadi Touré, à l'arrivée de la dépouille à Conakry.
Au Mali, plusieurs accords de cessation des hostilités ont été signés par les groupes armés Peul et Dogon qui se déchirent depuis des mois dans plusieurs localités du centre du pays. Des accords signés en marge d'une visite dans la région du Premier ministre Boubou Cissé. Ces accords de paix ont été conclus dans les cercles de Massina, Djéné, San, Tenenku et Niono, dans les régions de Mopti et de Ségou, par une dizaine de groupes armés Peul et de chasseurs traditionnels d'Ozo, composés notamment de membres de la communauté Dogon. Les violences communautaires ont fait des centaines de morts au Mali et elles avaient culminé le 23 mars à Ogossagou, près de la frontière du Burkina Faso, où quelques 160 peuls avaient été tués par des chasseurs Dogon présumés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, toujours au Niger, l'opposant en exil Mahamadou a été désigné candidat à l'élection présidentielle de 2021 dans le pays par les deux factions de son parti, le Mouvement démocratique nigérien MODIN, principale formation d'opposition dans le pays. Les deux factions ont tenu des congrès rivaux simultanés dimanche à Niamey, la capitale, et à Dosso, localité du sud-ouest. À Niamey, le bureau politique national du MODIN, fidèle à Mahamadou et soutenu par les députés du parti, a réaffirmé que Mahamadou est et demeure l'unique candidat du MODIN aux prochaines élections présidentielles. Et à Dosso, le communiqué du congrès convoqué par Umaru Noma, éjecté mi-juillet du fauteuil de président par intérim du MODIN par Mahamadou lui-même, souligne exactement la même chose. Mahamadou, fondateur du MODIN en 2009 et arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, vit en exil après sa condamnation à un an de prison en mars 2017 pour une affaire de trafic international de bébés qu'il a toujours qualifié de complot politique du pouvoir pour l'écarter. Afrique centrale maintenant, République démocratique du Congo, deux personnes ont été tuées et 24 sont portées disparues dans l'est du pays après l'attaque d'une localité par des assaillants non identifiés lundi. C'est ce qu'a déclaré ce mardi à l'AFP Noéla Katangerwaki, présidente de la société civile du territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Selon Madame Katangerwaki, les assaillants sont venus du parc des Virunga, de la localité de Mwalika exactement, et ils sont repartis après l'attaque dans la même direction. L'incident a eu lieu à Kisima, localité située à environ 40 km à l'est de Beni, en bordure de l'axe qui mène à Kasindi et la frontière ougandaise. Samedi et dimanche, 10 autres personnes avaient été tuées dans cette même région de Beni qui a le fief des milices du groupe musulman ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées, responsables de nombreuses tueries de civils, surtout depuis 2014, d'après les autorités. À noter que l'épidémie d'Ebola en courant RDC sévit dans la zone. L'Ouganda voisin a annoncé avoir commencé à tester lundi un vaccin expérimental contre Ebola qui pourrait être utilisé en République démocratique du Congo, où l'épidémie de fièvre hémorragique a déjà fait plus de 1800 morts en un an. Les détails avec Abdourahmane Dia.
L'essai du vaccin MVA-BN fabriqué par la société américaine Johnson & Johnson devrait durer 2 ans selon le Conseil de recherche médicale de l'Ouganda. Quelques 800 personnes seront vaccinées. Il s'agit de professionnels de la santé et personnels se trouvant en première ligne comme les agents de nettoyage, les équipes d'ambulanciers, des morgues ou celles chargées des enterrements. Les autorités sanitaires congolaises utilisent déjà un vaccin expérimental fabriqué par le groupe américain Merck qui s'est révélé sûr et efficace. L'Organisation mondiale de la santé a préconisé une extension de son utilisation et recommandé l'introduction d'un autre produit fabriqué par Johnson & Johnson. L'ancien ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, qui a démissionné en juillet, s'était dit opposé à l'introduction d'un deuxième vaccin.
Le Burundi est confronté à une flambée de paludisme atteignant des proportions épidémiques qui a fait plus de 1800 morts depuis le début de l'année, selon l'ONU, soit autant que le nombre de victimes d'Ebola en un an dans la République démocratique du Congo voisine. Mais le gouvernement burundais refuse jusqu'à présent de déclarer une épidémie de paludisme malgré les demandes des organisations internationales en ce sens depuis la mi-avril. Et pour terminer, au Mozambique, la Renamo, ancienne rébellion devenue le principal parti d'opposition dans le pays, doit signer ce mardi un traité de paix définitif avec le gouvernement de Maputo. Initiative qui fait suite à la signature d'un accord de cessation des hostilités jeudi dernier par le président Philippe Nyusi et le leader des ex-rebelles Ossoufo Momade dans le parc national de Gorongosa dans le centre du pays. C'est la troisième tentative pour conclure une paix définitive entre les deux rivaux. La Renamo n'ayant jamais totalement désarmée et ayant maintenu une partie de ses combattants dans les montagnes du centre du Mozambique. L'ex-mouvement rebelle accusait le gouvernement de ne pas respecter ses précédents engagements. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.